dont je voulais vous parler, mais on prendra quand même quelques minutes parce que moi ça m'intéresse de savoir si parmi vous il y a des gens qui ont tenté les exercices proposés et puis de savoir ce que ça a pu donner la dernière fois. Sinon c'est pas la peine que je vous propose les exercices. Puis en plus s'il y a un tableau c'est bien pour qu'il y ait une interro. Donc s'il n'y a pas d'interro c'est pas un cours. Est-ce que ça vous convient comme programme? Parfait. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parle plus fort?
Non, il faut que tu parles dans le micro.
Faut que je parle dans le micro? Comme ça? Bon. Là, ça va? Vous m'entendez bien? D'accord. Donc, je disais, on ne va pas commencer par une interro, on va commencer par faire le cours. Et alors, aujourd'hui, le thème de ce cours, c'est pas le thème de secours, c'est pas un secours pour vous. On parle de secours. Le thème de ce cours, c'est effectivement les étapes du calme mental. Mais plus que du calme mental, ce sont les étapes. Ce sont des étapes. Quoi. En fait, mon idée, c'est de vous faire découvrir des étapes. Et normalement, ça va être d'autant plus intéressant que je vois qu'il y a un public très jeune parmi nous. Et cette question concerne tout le monde et tous les âges. Pourquoi ? Parce que ces étapes, c'est la question de l'accès à nos ressources. Alors, je vais faire quelque chose au tableau, mais on est bien d'accord, c'est très schématique. C'est-à-dire que c'est loin d'une représentation réelle. En plus, j'aurais beaucoup de mal. Je vais essayer de représenter ce qu'il y a là dans notre tête, aux uns et aux autres. D'accord? Mais c'est schématique, on est d'accord? Voilà. Pour faire très très simple, je vais dire, c'est un petit peu comme si notre cerveau c'était ce triangle. Et pour qu'on se comprenne bien, ce que je voudrais vous dire d'emblée, c'est qu'en fait, et tous, on n'utilise qu'une toute petite partie de ce cerveau, de ce triangle. D'accord? Ça, vous savez déjà. Voilà. C'est-à-dire qu'on utilise ceci et pas cela. Et pourtant, cela existe. Alors, ceci, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle l'intellect, la réflexion intellectuelle. Hein, si les garçons, si vous avez des cours, des leçons à apprendre, même nous, même si on n'a plus de leçons, on a simplement des raisonnements à voir, des problèmes de la vie à résoudre, ou même s'il n'y a pas de problème, on pense simplement, tout se joue ici. Et en fait, quand je dis « on pense simplement », c'est-à-dire qu'on utilise des unités de mémoire qui s'appellent les neurones. Ça va, tout le monde est au clair maintenant sur les neurones? Hein, vous savez, c'est une petite cellule. Voilà, c'est un neurone avec des petites branches. Et puis là, il y en a un autre. Et quand on pense, eh ben, ces neurones rentrent en contact. Et c'est ce qu'on appelle une connexion interneuronale. C'est ce qu'on voit à l'IRM, on voit les zones du cerveau qui se mettent en route. Donc, si par exemple, je vais essayer d'être le plus concret possible, si par exemple on est tous dans la pièce, on est en train de présenter quelque chose, et l'un de vous se souvient qu'il a oublié de faire le plein avant d'arriver ici. C'est le cas? Le réservoir est bien vide pour ça? C'est le cas pour personne? Bien sûr, ça m'aurait arrangé quand même. Bon, imaginons que ce soit le cas. Ça veut dire que, quelque part, à cause de mon discours, cette personne va se rappeler qu'effectivement, elle risque de pousser sa voiture en repartant. Et elle va se dire que, de toute façon, ça ne serait pas la première fois, puisque ça lui est déjà arrivé. Mais qu'avec un peu de chance, elle va trouver une station dans Mel, mais qu'elle ne connaît pas bien Mel, mais qu'elle peut demander à sa voisine qui connaît Mel, parce que sa voisine est là depuis 15 ans. Donc vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit un raisonnement. C'est une pensée. Vous voyez, ce sont des pensées qui se succèdent, mais dans un ensemble cohérent. Et ce travail, en fait, nous le faisons en permanence dans la journée. Si par exemple, vous avez une leçon à apprendre, tu te mets à penser que tes copains t'attendent, des choses comme ça, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, on a concentré notre esprit sur une question, et puis nos pensées nous emmènent ailleurs. Vous avez tous remarqué qu'en règle générale, notre corps est quelque part, mais notre esprit est largement parti ailleurs. Et la dernière fois, j'avais tenté de vous expliquer quelques exercices de base de la concentration, et je vous avais dit, si vous voulez vous concentrer, ben, commencez par quelque chose d'extrêmement simple, concentrez-vous sur votre respiration, par exemple. Donc, se concentrer, observer un point fixe, vous voyez, c'est placer son attention sur un concept unique, sans qu'il qu'il y ait théoriquement d'association avec un autre concept. Donc, si quelqu'un était capable de le faire, on verrait à l'IRM que son activité est intellectuelle est quasiment nulle. C'est-à-dire qu'elle est au repos total. La personne ne dort pas, elle est en état de repos. C'est-à-dire qu'elle a des tas de possibilités, mais elle est en état de repos intellectuel. Est-ce que si je dis ça, c'est clair? Pour tout le monde? Oui, c'est sûr. Donc, il y a à partir de là deux possibilités. La première possibilité, là j'ai parlé d'un problème de plein d'essence, de panne potentielle. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. J'aurais pu parler d'un problème de deuil, de maladie, de maladie grave, de choses de cet ordre-là. Et la première possibilité que nous avons, c'est d'être entraîné par des pensées sur des problèmes graves qui peuvent nous toucher les uns et les autres à certains moments de notre vie. Et le problème, c'est que ce chemin-là que j'ai représenté, il se grave d'autant plus profondément en nous que les problèmes sont graves ou que les questions nous angoissent. Je me fais comprendre ? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui nous soucie, on va avoir comme une espèce de charrue qui va creuser un sillon, et ça laissera des traces. Et plus le sillon est profond, plus notre attention va être captée par le problème qu'on n'arrive pas à résoudre. D'accord ? Alors quand on travaille l'entraînement mental, le calme mental, toute la question c'est comment peut-on se libérer de ce problème, pour pouvoir le résoudre d'ailleurs. Et donc la technique que je vous ai proposée, c'est de vous concentrer sur un point. Et là, il faut bien qu'on se comprenne. Il y a deux possibilités. Soit vous concentrez votre attention sur des problèmes, ou plutôt les problèmes vous emmènent par la main, le jour ou la nuit d'ailleurs. C'est souvent les problèmes d'insomnie, des choses comme ça. Soit vous essayez de mettre en place une technique qui va vous permettre de vous concentrer sur un point. Même si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes en train de prendre conscience que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un point, ça veut dire que votre conscience s'est élevée du problème. Il faut que je le redise plus lentement, ou est-ce que c'est compris par tout le monde? Soit je suis dans mon problème, je vais tomber en panne d'essence, ça va être absolument abominable. Vous voyez le problème? Bon, c'est pas grave, c'est bien. Soit je suis concentré dans mon problème, soit je me dis... J'essaie de muscler ma capacité de concentration et je me concentre sur ce morceau de crêpe. Et dans les deux cas, c'est un travail de même nature. C'est-à-dire que j'ai la concentration sur des éléments de base. Mais si, étant concentré sur mon morceau de crêpe, je me mets à penser à mon problème d'essence, ça veut dire que je suis dans l'observation de mes pensées. C'est ce qu'on appelle en psychologie la métacognition. La quoi ? La métacognition, c'est la capacité, d'observer le cognitif, c'est-à-dire sa réflexion intellectuelle, la métacognition. Donc si j'essaie de me concentrer sur un objet unique, et si je vois que régulièrement ma pensée repart sur mon problème, ça veut dire que je suis dans une certaine forme de distance par rapport à ce problème. Vous voyez ? Et ça, vous avez franchi une étape. Même si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le point. Ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de comprendre que votre point de vue a déjà monté une marche sans que vous en preniez conscience. Est-ce que c'est clair ? Alors, techniquement, si je suis en train de penser à ma panne d'essence, je suis pris dans ce qu'on va appeler une pensée grossière. Si j'essaie de me concentrer sur mon morceau de craie et que je me remets à penser à ma panne d'essence et que je me dis « attention, laisse tomber ta panne d'essence, reviens sur le morceau de craie », c'est ce qu'on va appeler une pensée subtile. C'est-à-dire que c'est une pensée d'un autre niveau. Plus on va faire ce retour sur l'objet unique, plus on fera ce qu'on appelle techniquement un rappel. R-A-2-P-R-A-P-L. Plus on fait de rappel, plus on habitue notre esprit à prendre de la distance avec les problématiques. Cette distance, c'est celle qui va nous permettre de sortir progressivement de la douleur, de la tristesse, de l'anxiété. Pourquoi ? Parce que plus on va s'écarter de ses pensées, et moins on en subira les charges. C'est clair quand je dis ça ? C'est-à-dire, si j'ai une pensée qui me rend malade, c'est exactement comme s'il était chargé électriquement. Plus je suis dans la pensée, plus je prends la charge électrique de plein fouet. Plus je suis dans l'observation, donc dans la distanciation, moins la charge va m'atteindre. Moins la charge va m'atteindre, plus je suis en capacité de résoudre le problème. Plus la charge m'atteint, moins je peux le résoudre. C'est le problème des insomnies, par exemple. Oui, le lendemain matin, on se dit, j'aurais mieux fait dormir. On se comprend bien dans tout ce que j'explique là. Voilà, le contraire. Parce que cette distance nous a perdu. C'est les anciens qui nous disaient, mais passe une bonne nuit, tu verras ça demain. Les anciens avaient plein de sagesse. Hein. Et, vous savez, souvent il y a des recoupements entre les travaux des neurosciences, le travaux des grands yogis et les proverbes des anciens qui l'expliquaient avec leurs mots. Ils avaient une sagesse de la vie que malheureusement on a peut-être un petit peu perdue. Donc ça va ce que je suis en train de dire ? Donc voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire que la première marche pour sortir de ce qui nous emprisonne, c'est de créer cette capacité d'observer notre façon de penser et de faire des rappels. C'est le premier travail. Alors, il ne va pas être payant tout de suite. Il ne va pas être payant tout de suite, mais à terme, vous serez gagnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que plus on va entraîner notre cerveau à observer ce qui se passe, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à me concentrer là, est-ce que je repars là, etc., plus ça va devenir facile. Plus ça va devenir facile, et moins cette chaîne de pensée sera longue. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte beaucoup plus rapidement qu'on a tendance à partir de notre objet de concentration. C'est clair quand je dis ça ou c'est pas clair ? C'est-à-dire, si je suis concentré sur ce morceau de crème, je peux rester concentré une vingtaine de secondes, et puis d'un coup je me mets à penser à autre chose. Et puis je pense, jusqu'à un moment où je me dis, mais je suis parti, mon point là. C'est cette durée-là qui va rétrécir. Retenez ça dans votre tête, parce que j'en reparlerai tout à l'heure. C'est clair pour tout le monde ? Cette durée va rétrécir. C'est-à-dire que plus je vais être concentré sur mon morceau de crème, moins je vais partir loin dans mes pensées. Jusqu'au moment où, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? La durée est tellement petite qu'elle n'existe plus. Quand la durée n'existe plus, ça veut dire que je suis sur le point. Quand je suis sur le point, même la pensée subtile n'a plus d'utilité. Quand la pensée subtile n'a plus d'utilité, elle s'arrête et je suis projeté là. C'est incroyablement simple. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous avez compris ça, vous avez absolument tout compris. Il y a des gens, vous savez, dans les années 68, les gens qui sont partis en Inde et tout, ils disaient, ouais, la méditation, faut pas penser, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. Il y a eu beaucoup de tâtonnements à cause d'une conception qui était erronée, qui n'était pas claire. En fait, c'est naturel de penser. Toutes les pensées que nous avons sont naturelles. Nos insomnies, d'une certaine façon, sont naturelles. Il faut que ça sorte, quoi. Vous voyez, c'est le problème de la cocotte minute. Si ça ne sort pas, c'est pas meilleur pour autant. Il ne faut pas bloquer ce qui doit sortir. Il faut changer son point de vue. Il faut se mettre à la place du conducteur, parce que c'est notre vraie place. Donc, je le redis très lentement, première marche, c'est la métacognition. Je suis capable de comprendre mon raisonnement. Je ne suis donc plus dans le raisonnement. La marche d'après, à force de réguler mon travail de concentration, j'arrive à me concentrer sur un point. Je n'ai donc plus besoin de pensées subtiles pour maintenir cette concentration. Donc mes pensées s'arrêtent. Quand les pensées s'arrêtent, j'ai accès à ce qu'il y a au-delà du cognitif. Alors au-delà du cognitif, il y a un certain nombre de choses. Il y a par exemple toutes les fonctions automatisées. Vous savez, par exemple, vous avez votre corps est à une certaine température. Chacun a un rythme respiratoire différent. L'oxygénation du cerveau, les phénomènes de déglutition, tout ça, c'est des choses auxquelles on n'a normalement pas accès. Sauf les yogis. Étant passés ici, ils peuvent du coup reconsidérer les fonctions automatisées. Et c'est pour ça qu'il y a certains yogis qui arrivent à ralentir les battements de leur cœur, qu'il y en a d'autres au Tibet qui arrivent à monter la température de la chaleur de leur corps, etc. Si vous avez lu Alexandra Davinel, ici, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire ici. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Ici, on a des possibilités qu'on n'a pas là. C'est clair pour tout le monde ? Alors, quand je le disais la dernière fois, c'est les études des scientifiques sur la télomérase, cette fameuse enzyme, ils sont aperçus que lorsque quelqu'un est capable de faire ce travail, ça se voit, puisque du coup, il n'y a plus d'activité là, à l'IRM. On s'aperçoit que la personne sécrète des enzymes qui ont un effet sur le corps, sur les cellules du corps. C'est-à-dire, ça va renforcer les défenses immunitaires des cellules, et surtout, ça va lutter contre le vieillissement des cellules. D'où l'hypothèse des médecins de dire, c'est pour cette raison qu'il y a des yogis qui vivent très vieux, avec un cerveau en pleine connaissance, vous voyez, avec tous leurs moyens intellectuels. C'est pourquoi le fait de passer ici est un véritable enjeu pour nous tous, quoi. Il faut bien le comprendre. Alors, je vais être encore plus précis dans ma description. On dit que lorsque la personne arrive à prendre cette distance avec ses pensées grossières, donc à être dans la métacognition, puis après à rester immobile sur un point, sa conscience est projetée ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous êtes assis immobile dans cet état, votre corps va commencer à se relaxer véritablement. C'est-à-dire, vous savez, il y a un impact de nos soucis sur notre corps. C'est le phénomène de somatisation, de poussée de boutons, de mal de dos, etc. Quand on arrive dans cet état-là, il y a une caractéristique d'ailleurs, quand vous êtes dans cet état-là, c'est ce qu'on appelle l'équanimité. C'est-à-dire que vous ayez une pensée qui passe dans votre tête ou pas, ça ne gêne absolument plus la concentration. Vous la regardez exactement comme quelqu'un sera assis au bord de l'eau, regarde le fleuve passer. C'est même beau à voir. Mais ça n'est pas gênant en tout cas. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Et quand on est dans cet état-là et qu'on y reste dans une durée significative, alors se produit ce phénomène. C'est-à-dire que le corps se met dans un état, c'est ce que les yogis appelaient dans le temps la félicité du corps. C'est-à-dire puisqu'il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de tension, le corps reprend des rythmes respiratoires, circulation du sang, pression sanguine, qui sont beaucoup plus naturels, et il y a ce qu'on appelle une félicité du corps. Et cette félicité du corps renvoie une énergie à l'esprit qui peut, lui, être dans une véritable félicité. Et c'est pour ça que les grands yogis ou de grands ermites ou des gens qui ont marqué l'histoire, quelles que soient les civilisations, peuvent parfois apparaître comme des êtres extrêmement souriants, extrêmement détendus, nageant dans le bonheur. C'est pas qu'ils ont fumé de la moquette, hein, c'est qu'ils ont atteint un état de félicité réel et stable. Tout le reste, si vous essayez par exemple de résoudre des problèmes ici en restant sur le plan intellectuel, vous arriverez certainement à les résoudre, mais jamais de manière stable et définitive. Ce qui est résolu un jour sera cassé le lendemain, vous voyez. Tant qu'on reste à ce niveau-là, je vais être plus précis, tant qu'on reste à ce niveau-là, on reste dans ce qu'on appelle le raisonnement conditionné. C'est-à-dire que la chaîne de nos pensées ici, en réalité, elle ne se fait pas au hasard, mais elle se fait en fonction des conditionnements culturels. Et en particulier, elle est liée très directement à la conception des deux sommets du triangle. Il y en a un qui s'appelle « moi », et l'autre qui s'appelle l'autre ou les autres. En fait, c'est tout ce qui n'est pas moi. C'est notre conditionnement culturel depuis la naissance. C'est-à-dire qu'on est conditionné pour penser je suis et les autres, c'est pas moi. Oui, c'est un paramétrage de l'esprit de l'homme et de la femme. Hein. D'accord ? Et ce paramétrage va entraîner quatre grandes façon de penser, on va dire. La première, c'est, on est, c'est plutôt de l'ordre de la répulsion, c'est-à-dire quand ce qui n'est pas moi ne me plaît pas, je vais l'éviter. Ça va si je dis ça? La seconde façon de penser, c'est plutôt l'attachement, c'est-à-dire les gens qui me font du bien ou les choses qui me font du bien, je vais m'y accrocher. La troisième catégorie, c'est plutôt la jalousie, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a quelque chose qui est à moi ou qui devrait être à moi normalement. Et puis la dernière, c'est le doute et l'incertitude, parce que quand on est dans cette logique, on se rend compte plus ou moins consciemment que finalement, ce n'est qu'une perception des choses. On est dans la perception et l'interprétation. J'essaie d'aller très vite, mais surtout n'hésitez pas à m'arrêter. Quand on raisonne à cet étage-là du cerveau, on raisonne donc avec quelque chose qui fonctionne un petit peu comme un ordinateur. Un ordinateur, pour pouvoir marcher, il a été paramétré au départ. Paramétrer un ordinateur, c'est donner un certain nombre de règles et de consignes pour que l'ordinateur puisse fonctionner. Et nous, notre paramétrage, il est culturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit le jour, et pendant toutes les premières années de notre vie, finalement, on va nous apprendre à penser. Et du coup, ça va induire chez nous des temps... Alors, ça varie d'un individu à l'autre. Ça va induire des tendances possibles. Et donc, je donnais les quatre grandes tendances. La première tendance, c'est de, par exemple, c'est tout ce qui va être de nous opposer aux autres, ou de mal considérer les autres, ou de considérer que les problèmes viennent des autres, ou d'avoir des pensées négatives pour les autres. La deuxième tendance, ça va être plutôt de dire, ça peut m'apporter du bien à quelqu'un, une situation, etc. Donc, on va être plutôt dans le désir ou l'attachement. La troisième tendance, c'est plutôt une forme de jalousie, on va dire, parce que si on pense que quelqu'un a quelque chose qui devrait normalement nous appartenir, ou a une place dans la société qui ne mérite pas, etc. Oui. Et la quatrième tendance, c'est que au final, on est quand même dans le doute ou l'incertitude par rapport à tout ce qu'on pense, si on se pose bien les questions. Ça va, c'est clair? Est-ce que je vous heurte dans ce que je dis? Ça ne vous heurte pas? Prenez n'importe laquelle de vos sujets de pensée, prenez n'importe lequel de vos sujets, quelque chose qui vous... Est-ce que quelqu'un a des insomnies parmi vous? Qui? Vous en avez eu il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous voulez bien, sans rentrer dans le détail, nous donner le thème de l'un ou un sujet qui vous a travaillé?
C'est familial. C'est familial, oui. Problème de santé, problème d'argent?
Non, de relationnel.
De relationnel.
Et donc, problème relationnel. Quel que soit le problème que vous allez traiter, si vous allez au-delà de la forme du problème, vous verrez qu'on est toujours dans la relation entre moi et les autres. Et vous verrez, hein, ça marche. Si on prend le temps de le faire, prenez n'importe quel problème, il existe à partir du moment où on considère moi et les autres. Alors moi et les autres, moi et les objets. C'est-à-dire, pour faire simple, à partir du moment où je pense que je peux perdre quelque chose qui me fait du bien, potentiellement, je suis malheureux. Ça va, si je dis ça? Alors, les neuroscientifiques ont fait des expériences comme ça avec des grands yogis, des ermites, en leur demandant de décrire ce qu'ils ressentaient quand ils étaient capables, quand ils étaient là. Et en fait, ils font tous la même description, quelle que soit leur philosophie d'origine. C'est-à-dire qu'ils perdent la notion de moi et des autres. Ils décrivent quelque chose d'assez universel. Ouais. Alors ça, c'est la question que j'attendais. Il y a quoi, là? C'était surprenant qu'elle soit pas posée. Eh bien, ouais. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut, justement? C'est ça qui est intéressant. Comprenez bien, à partir du moment où un ordinateur est paramétré, pour un certain nombre de programmes, il n'est pas paramétré pour d'autres programmes. Autrement dit, tant qu'on sera là, on peut avoir une approche intellectuelle de ceci, mais ça ne sera qu'une approche éloignée de la réalité. Alors je vais le dire autrement, c'est plus poétique des fois, on dit, c'est exactement comme la Lune. Vous savez, il y a une Lune unique. Mais si par exemple on était autour d'une grande étendue d'eau, en fonction de notre position à chacun, on verrait le reflet de cette lune à des endroits différents. Et tout le monde dirait, mais le reflet de la lune est là. Et tout le monde aurait raison. Mais ce n'est pas la lune, c'est le reflet de la lune. Et donc, selon l'endroit du monde où on est né, on écrira ce point d'une façon ou d'une autre. Ce n'est qu'un reflet. La meilleure façon de répondre à la question, c'est de te prendre par la main qui en sort. Et on va voir. Parce qu'autrement, c'est une explication intellectuelle qui va forcément limiter ce troisième point. Mais en tout cas, ce troisième point est en dehors de l'opposition, ça c'est Einstein après, entre le moi et les autres. À partir du moment où il n'y a plus de distance, il n'y a plus d'espace, plus de temps. Et ça, c'est là on rentre dans la physique quantique, c'est un peu peut-être compliqué ce soir. Mais c'est le principe. Hein. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui se posent tout un tas de questions. Ça va, ça vous, c'est pas trop théorique tout ce que je suis en train de dire. Après, il y a une chose que je peux vous assurer, alors par rapport aux garçons, là, si vous avez des examens à préparer, ou même par rapport aux adultes pour d'autres raisons, notre cerveau a des possibilités qu'on n'utilise pas. Moi j'enseigne les procédés mnémotechniques, Annick le sait bien, à l'AFPA pour des gens qui sont intéressés par des questions de mémorisation. Je peux former des gens pour réussir des examens, je peux former des gens pour apprendre par cœur tous les cours qu'ils veulent et les garder en tête aussi longtemps qu'ils veulent. C'est tout à fait possible, on peut le faire. Simplement, les gens ne savent pas et ne l'utilisent pas. Et l'entraînement mental, c'est aussi des techniques qui existent pour passer de là à là. Elles existent, le tout c'est de les connaître et puis de les mettre en pratique. Mais tout ça, c'est possible. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ce travail et ce voyage. Et encore une fois, je crois que c'est un enjeu incroyablement important pour nous et pour les années qui nous restent à vivre. Si on veut garder son corps en bonne forme, si on veut garder son esprit lucide le plus longtemps possible, indépendant, autonome, on a intérêt à travailler pour ça. Ça ne se fera pas tout seul et c'est même plutôt le contraire, on sait. On est avec plusieurs milliards de neurones, chacun des neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres neurones. Et si on ne fait rien, arrivé à la fin de l'adolescence, on voit tous les jours le nombre de neurones décroître. Mais on sait maintenant parfaitement que, par contre, si on entraîne ce cerveau, on peut recréer à la fois des neurones et on peut recréer la possibilité de connexion de ces neurones. C'est-à-dire ce qu'on appelle les connexions interneuronales. Entre parenthèses, c'est Alzheimer. C'est la connexion n'existe plus, on n'a plus accès aux informations. Et donc, notre intérêt, c'est vraiment de mettre en pratique ces entraînements. Ça va ? L'explication est claire ? Alors, pour aller plus loin, il faut multiplier les portes d'entrée. Je vous ai apporté une représentation qu'on utilise au Tibet, qui vient d'Inde, qui est très très ancienne, dans laquelle on décrit exactement tout ce dont je viens de parler. Et c'est vraiment complètement en concordance avec les recherches scientifiques actuelles. Donc j'ai fait un certain nombre de photocopies. J'espère qu'il y en a assez. Je vais vous les faire passer. Et cette représentation a un mérite, c'est qu'elle retrace toutes les étapes de ce travail pour passer d'ici à là. Et donc, je vous fais passer la représentation et on regarde les étapes les unes après les autres. Ça vous va ?
Hop. 80. Attends, je vais garder pour moi. C'est 80.
Vous êtes à plusieurs.
À partir du moment, la question était posée, à partir du moment où on se déconditionne de nos conditionnements culturels, de nos paramétrages, on a accès à toutes ces ressources. Et après, mais ça rend responsable. Ça rend responsable de ses choix. Parce que du coup, on sait où se trouvent en nous toutes les manettes. et tous les leviers. Et on sait comment les accéder. Est-ce que tout le monde a la photocopie entre les mains? C'est bête. Ouais, je suis désolé. Ouais, il n'y en a pas assez? Je l'ai dans ma voiture, j'aurais pu l'emmener. Par exemple, il y a une méthode un exercice, c'est le plus vieux procédé de mnémotechnique, c'est la méthode des vieux, qui vient de Grèce, qui a 2500 ans d'âge. Ça ne sert à rien, si ce n'est à muscler la mémoire et la concentration. Donc je l'apprends moi, aux gens qui sont dans des situations de préparer des examens, des choses comme ça. Si l'exercice, si la méthode est mise en place, par exemple, si vous m'écrivez 30 mots au tableau, je retourne le tableau, la personne est capable de les redonner dans l'ordre, en partant du début ou de la fin. Et donc, avec les groupes de stagiaires que j'ai, les gens essaient de battre le record. Pour voir s'il y en a un qui apprend 60 ou 90. Et donc, c'est une petite jeune fille de Chauvigny qui avait récité 388 mots dans l'ordre. Et je l'ai dans la voiture, l'article. Je vais le chercher, hein, s'il vous plaît. Mais demandez à Nick, elle sait. C'est tout ça, c'est possible. Tout ça est possible. Moi, je dis, on devrait l'apprendre à nos gamins à l'école. Au lieu de dire à un gamin, tu es nul, tu ne sais pas apprendre. On lui apprendrait ça, tous nos gamins réussissent tous les examens. C'est pas ?
Je prends Pierre au bout. Je vous donne un exemple. Il y a trois personnes parmi vous qui veulent monter un cycle, la mémoire, théorie et pratique. Eh bien, vous vous mettez ensemble, vous proposez à l'Université populaire de monter un cycle, vous contactez Pierre. Et vous montez un cycle.
Et vous serrez tous vos examens derrière. Non, mais c'est véridique. On devrait apprendre ça. Vraiment, on devrait apprendre ça à nos gamins. Franchement. C'est le monde imparfait dans lequel nous vivons. Ça, c'est encore une autre thème de. Il y a des raisons, mais c'est encore un autre thème d'intervention. Mais c'est vrai que ça devrait. Si on apprenait à nos gamins ces procédés, je vous assure, ça changerait beaucoup de choses. Ah ben, et pour nous, adultes, bien sûr, oui. Vous avez tous la photocopie? Super, il y en avait assez finalement. Oui. La méthode, 1 heure. Et attendez, je vais vous donner un exemple, parce que des fois, l'exemple concret, c'est utile. Moi, j'ai des garçons, ils sont un petit peu grands, mais à un moment donné, j'en avais un, il devait apprendre la liste des 27 pays de l'Union Européenne. Méthode plus la liste des pays, 1 heure, 1 heure et demie. C'est-à-dire que là, il y a le temps d'apprentissage de la méthode. D'accord? Plus la liste des pays, 1 heure et demie, après, il la garde en tête le temps qu'il veut. Et vous pouvez les ordonner, c'est-à-dire par ordre de croissance, par exemple, la démographie, le relief, enfin, la population, l'économie, comme vous voulez. Une fois que vous les avez ordonnés, c'est incroyablement facile à mettre en place. Vous les oubliez, je peux vous assurer.
Alors, si vous allez sur Internet, vous trouverez, grâce à monsieur et madame Google, le sentier de Samantha.
Vous avez vu mon le sentier de Samantha. Allez, je me dépêche parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Étape par étape, on part. Alors attention, on est bien d'accord. Ça, c'est science ancienne, c'est-à-dire que c'est un texte écrit en symboles. On va déchiffrer ces symboles ensemble. Le voyage de ce petit moine, c'est notre voyage quand on cherche à maîtriser son esprit et aller vers le calme mental. C'est le sentier de Samatha. La première étape, elle est en bas. Vous avez un petit moine, avec un petit peu plus loin devant un éléphant, tiré lui-même par un singe. Je vais aller très vite, mais vous pouvez m'arrêter à tout moment si je vais trop vite. Cet éléphant représente notre esprit cognitif. Le petit moine, celui qui le dirige. Si je vous dis 2 fois 64, ça fait combien? Voilà. Vous avez fait le choix de faire une opération et vous avez fait l'opération. D'accord? Vous auriez pu me dire, mais moi, je n'ai pas envie de calculer. C'est-à-dire que vous auriez fait le choix de ne pas faire l'opération. Vous voyez? C'est celui qui dirige. On est d'accord, hein? Donc, le petit singe symbolise la turbulence de l'esprit. À notre époque, ils sont très actifs, les petits singes. La noirceur du petit singe et de l'éléphant symbolise la somnolence. Dès que je vais vous proposer des exercices comme ceux que je vous ai proposés la dernière fois, vous risquez à un moment donné de vous épuiser ou d'avoir la conscience qui part fatiguée. D'accord ? Ça, c'est la noirceur. Et le bouquet de flammes sous le petit singe représente l'énergie qu'il faut dépenser quand on commence la pratique de l'entraînement mental, ou à l'époque on appelait ça la méditation, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que là, il va falloir utiliser beaucoup de pensées subtiles pour réguler son système. Pensées subtiles, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Vous vous souvenez, métacognition. Ça, c'est le début. Étape suivante, le petit moine essaie d'attraper l'éléphant avec le lasso. Ça veut dire... J'ai écouté les explications, j'essaye de mettre en pratique les explications. Donc je vais me concentrer sur un objet. C'est symbolisé par le petit moine qui essaie d'attraper l'éléphant avec le lasso. D'accord ? Ça va ? Je peux passer à l'étape suivante ? L'étape suivante et celle d'après, vous allez voir que le lasso est de plus en plus court. Le lasso est de plus en plus court, c'est en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, plus je vais me concentrer, moins cette chaîne sera longue. C'est-à-dire, je me rends compte de plus en plus facilement que je suis en train de sortir de ma concentration. Entre parenthèses, ça aussi, c'est ce qu'on devrait apprendre aux collégiens, aux lycéens, aux enfants à l'école. C'est à concentrer leur esprit. Plus je travaille, plus je me rends compte rapidement que je pars, c'est symbolisé par le lasso qui est de plus en plus court. Ça va, vous suivez toujours ? À un moment donné, le lasso est tellement court. Alors, vous voyez, le lasso, c'est un des deux outils du petit moine au départ, outil symbolique, hein, tout à fait au départ du chemin. Il a un outil dans chaque main. Dans une main, il a un lasso, et dans l'autre main, il a un couperet. Le couperet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce couperet ? Ben, c'est qu'à un moment donné, quand la longueur du lasso est nulle, ça veut dire que si je suis là, comme ça, en méditation, parfaitement concentré, n'importe qui peut le faire ici, hein. N'importe qui peut le faire, hein. Parfaitement concentré sur le moment concret, à un moment donné, je vais être tellement au calme que je vais me rendre compte que des pensées sont en train de naître. Alors attention, quand je dis des pensées, ce n'est pas des pensées P-E-N-S-E-E-S, ce sont des pensées P-E-N-S-E-R. Ce n'est pas des pensées qui passent, ça, ce n'est pas grave, les pensées. Ce qui est gênant, c'est la conceptualisation, c'est-à-dire la connexion entre des neurones qui va générer une activité électrochimique du cerveau. Ça va ou il faut que je redise lentement ? Si je suis concentré sur un morceau de craie, si j'ai une pensée qui passe, il n'y a pas de problème. À l'IRM, ça reste inactif. Si j'ai une pensée qui passe et je me dis « Ah tiens, je suis mauvais, j'ai une pensée qui passe », je viens de me juger, donc d'avoir une pensée, à l'IRM, on voit le cerveau qui se met en route. Et là, on n'est pas du tout à l'aise. On est loin de là. Donc, il faut apprendre à observer sans penser P-E-N-S-E-R, même s'il y a des pensées P-E-N-S-E-R-S. C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que ce serait une erreur de vouloir arrêter de penser P-E-N-S-E-R-S. Rebecca, ça va ? Donc, si je suis concentré sur mon morceau de craie, à un moment donné, je suis tellement calme, et encore une fois, vous pouvez tous le faire, mais vraiment, vous pouvez tous le faire, je suis tellement calme que je vois la pensée P-E-N-S-E-R en train de naître. Mais comme je la vois naître, c'est la métacognition, je ne suis pas dedans. Je m'en exclus dès le départ. Mais comme je m'en exclus, elle n'a plus la force de se constituer, le raisonnement. Et donc elle s'éteint toute seule. Ça fait comme une vague qui monte et qui retombe. Si je ne l'alimente pas, elle n'a aucune puissance sur moi. Oui, c'est beaucoup d'efforts et c'est pour ça que les bouquets de flammes sont... Parce qu'au début, il y a beaucoup de travail, d'apprentissage, de concentration. Et c'est des efforts qui sont extrêmement payants, on va le voir après. Donc, je recommence. Si je suis là concentré, vraiment au calme, si je suis bien habitué à cette pratique, je vois les pensées, c'est-à-dire les raisonnements naître en moi. Les voyant naître, je ne rentre pas dedans. Comme je ne rentre pas dedans, ils retombent comme une vague. L'américaine. Ça, symboliquement, c'est représenté par l'outil numéro 2, qui est le couperet. C'est un symbole. C'est-à-dire, on dit, on coupe les raisonnements à la base, intellectuels. L'étape d'après, le petit moine a toujours son couperet. Il est là, mais il ne l'utilise pas. Ça veut dire qu'il peut rester plus longtemps au calme, sans être perturbé par des pensées, mais que si ces pensées reviennent, il saura comment faire. C'est ce qu'on appelle l'étape de la pacification. Et ensuite, on arrive à une autre étape, qui s'appelle la pacification complète, c'est-à-dire que quelque part, quand on a habitué notre cerveau à être dans cet état de calme, mais parfaitement conscient, l'esprit est parfaitement lucide, il ne faut pas s'y tromper. Il est même hyper affûté surtout. Hein. Il y a vraiment une très grande présence ici et maintenant. Hein. C'est pas je fais de la moquette, hein. C'est vraiment je suis présent dans la pièce. Hein. Quand j'ai habitué mon esprit à ce travail, l'esprit, c'est d'une certaine façon, c'est un peu bête quelque part, lui, il va garder cette habitude en dehors des séances d'entraînement. C'est-à-dire que dans ma vie quotidienne, dans mon travail de tous les jours, il va garder la même posture. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'affoler autour de moi. Moi, je vais rendre le calme. Ça va? Et à ce niveau-là, vous voyez, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'à ce niveau-là, le petit singe, il commence par passer, il passe derrière l'éléphant. C'est-à-dire que la turbulence n'a plus la loi jusqu'au moment où elle va disparaître complètement. C'est-à-dire là-haut, vous voyez le petit singe, il s'assoit et après il n'est plus là. Ça veut dire, et je vous assure, n'importe qui ici peut y arriver. Il y a un moment où plus aucune turbulence de l'esprit ne peut venir vous perturber. C'est clair. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est psychologique ou dans la tête ou ceci ou cela. On s'en rend compte. C'est une réalité. Et c'est très agréable et du coup très reposant parce que là, il n'y a plus d'effort pour y arriver. Mais il y a encore une sorte de somnolence possible, de fatigue. Vous voyez encore un petit peu de noirceur sur la tête de l'éléphant. Ça veut dire qu'à ce niveau de pratique, au bout d'un certain temps de pratique, votre énergie va vous faire défaut. Et il y a encore des interruptions de la concentration. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive? Il faut continuer de pratiquer. Jusqu'à temps que ça soit devenu une posture naturelle de notre esprit, obtenue sans effort. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut rester longtemps, très longtemps, concentré sur un objet, sans aucune interruption de la concentration. Ou sur son travail. Vous voyez? Sur ce que l'on fait, c'est notre choix. C'est notre choix. Ou avec moi. Voilà. Mais c'est pas fini. Que se passe-t-il après? Lorsque l'on est vraiment concentré sur un objet, il n'y a plus de raisonnement. On est bien d'accord. Vous êtes d'accord ou pas? Vous me suivez? Hein? C'est-à-dire, si on voit les personnes à l'IRM qui sont dans cet état, il n'y a plus d'activité cognitive. Il reste des fonctions automatisées, le cœur continue de battre, heureusement, etc. Mais la fonction, le raisonnement, la conceptualisation s'arrête. On est d'accord. Si à partir de ce moment-là, des pensées passent, P-E-N-S-C-E-S, il n'y a toujours pas de conceptualisation. On est d'accord. Oui, vous suivez bien. Hein. Quelle que soit la nature de ces pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour nous, dans notre jargon habituel, là, ça n'a plus aucune importance. C'est ce qu'on appelle l'équanimité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pensée qui passe, ou qu'il y ait des pensées, quelle que soit la nature de ces pensées, aucune de ces pensées va nous perturber. On reste dans un calme total, dans un état de bien-être total. Oui, peut-être. Pourquoi inquiétant? Et ça nous dégage de quoi? Ah, c'est pas plané, hein? Ah non, c'est pas ça. c'est qu'on se donne les moyens de s'en occuper correctement. C'est la différence. C'est que lorsqu'il y a des problèmes à résoudre, du coup, on voit peut-être plus que d'autres comment faire. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le filtre de nos projections habituelles, de notre système d'étiquette habituelle. Et je vous assure, parce que avec le CIN, j'accompagne beaucoup des publics en difficulté, d'apprentissage ou autre, c'est incroyable. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes, la dépréciation d'eux-mêmes, fait qu'ils s'empêchent de réaliser des choses. Fait tomber cette image, ils se disent pourquoi pas. Et du coup, ils savent comment faire et ils arrivent à faire. Vous voyez donc, c'est pas inquiétant du tout, au contraire, c'est extrêmement libérateur. Et en plus, il y a un côté extrêmement sympathique, c'est que du coup, on se met à aimer les gens pour ce qu'ils sont, à aimer la nature pour ce qu'elle est. Vous voyez, on arrête de projeter nos fantasmes et nos envies sur les chemins de la nature, etc. On prend les choses pour ce qu'elles sont. Et après, on fait des choix. On fait des choix de préserver la nature, de respecter les gens, ou pas. Mais c'est des choix conscients. Donnez-leur mon adresse. Ça marche. Donc, ah oui, alors je reviens là. Donc ça va le... Alors c'est simplement à cette étape-là, vous voyez. Et le petit moine, c'est le signe à l'éléphant, c'est très discret. C'est bon, ça va. Et là, ça veut dire, c'est symbolique, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de penser subtile. Les pensées grossières, il y a longtemps qu'elles ne sont plus là, puisque le petit singe, on l'a perdu. Il reste là les pensées subtiles. À partir du moment où l'éléphant s'assoit, on est là. Plus de pensées subtiles. C'est cette posture où les deux sont assis en complète entente, si je puis dire, c'est dans l'équanimité. Et c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. À partir de ce moment-là, nos soucis ne viennent plus perturber le fonctionnement de notre corps. Vous savez, quand on a un problème, qu'on se met à respirer rapidement, les battements du cœur, tac, 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 tac. Hein? C'est vraiment très lié. À partir du moment où dans ma tête, c'est vraiment bien, mon corps se met à fonctionner différemment. Et là, on arrive, c'est toujours symbolique, à cette étape-là, avec le petit moine qui vole dans les airs. Là. C'est l'étape de la félicité du corps. C'est-à-dire, c'est un état de véritable bien-être physique. Et à partir de ce moment-là, ce bien-être du corps renvoie, hein, n'oubliez pas, c'est quand même le corps qui oxygène le cerveau, renvoie ce bien-être au cerveau, qui est, alors c'est vraiment une absorption méditative dans laquelle on peut rester très très longtemps en méditation, et c'est extrêmement reposant, c'est des états très très particuliers d'absorption méditative. Très proche du sommeil, vous voyez. Donc vous voyez, quelle que soit l'approche, que ce soit une approche des neurosciences, l'approche de la méditation, elle décrit tout le même processus. C'est comme si c'était la culture de l'humanité. C'est, j'ai un cerveau, et j'en utilise qu'une partie. La question, c'est, est-ce que j'ai envie d'en utiliser un peu plus? Et derrière cette question, tout de suite après, c'est comment je fais? J'arrête pour l'instant, hein, et je vais vous laisser peut-être réagir à mon propos. Si vous voulez poser quelques questions, oui. Il faut savoir, par rapport à des personnes qui ont des maladies graves, que toutes ces techniques d'entraînement mental viennent des États-Unis et qu'elles ont été mises en place par des gens comme John Kabat-Zinn ou d'autres, qui sont des biologistes et des médecins, et qu'au départ, ces techniques ont été faites pour des personnes qui ont des maladies, justement. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que le fait que des personnes entraînent leur mental a un impact, a un effet sur l'évolution de la maladie. Et, enfin, quand je dis l'évolution, on se comprend, hein, c'est-à-dire... sur la façon dont la personne va évoluer avec sa maladie. Les médicaments font plus d'effet. On constate, regardez dans la presse, vous avez au moins tous les mois ou tous les trois mois des articles sur d'actualité sur les découvertes neuroscientifiques. On constate qu'il y a un effet sur les problèmes cardiovasculaires, le cholestérol, la drogue. La plupart des pathologies que l'on connaît, on sait que cet entraînement mental a un effet dessus. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup, beaucoup de cliniques qui sont ouvertes, où on explique ces techniques, ce qui n'existe pas en France. Alors il y a Christophe André en France qui essaye de faire parler de lui, qui est un grand médecin parisien, mais on a pris beaucoup de retard par rapport à ça. Alors maintenant, j'ai une autre façon de répondre à votre question. Là, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais de ce que je connais moi. À mon sens, le problème, il est le suivant. Lorsque quelqu'un est trop pris dans un problème, c'est plus difficile de lui apprendre des techniques pour en sortir. Il vaut mieux le faire quand la personne n'est pas trop pris dans le problème. Mais ceci dit, c'est pas impossible. Parce qu'il y a peut-être une façon différente de procéder. Si je me souviens bien, ce sera le thème de notre dernier cours.
C'est ça, les quatre pensées qui...
Eh oui. Alors pourquoi ce dernier cours? C'est parce que je me suis aperçu que quand j'essaie d'apprendre ces techniques à des personnes qui ont trop de problèmes, elles n'y arrivent pas. Parce que si elles essaient de se concentrer, les problèmes sont trop puissants. Vous savez, les échelles, hein, sont trop puissantes. Alors donc j'utilise une autre technique, qui existe, c'est pareil depuis des lustres, hein, c'est ça, qui s'appelle les quatre pensées qui changent la tournure de l'esprit. Et c'est une façon d'arriver à un résultat comparable, mais par un autre moyen. C'est-à-dire sans faire un travail de concentration quand on ne peut pas se concentrer. Et pour expliquer ça, je dis, vous savez, c'est comme si par exemple vous êtes sur une berge, vous marchez, et vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer. Et vous lui dites, et t'as une chance incroyable, je m'appelle Pierre et je vais t'apprendre à nager la brasse. Vous allez vous dire, mais ça va pas, non. C'est pas, je vais pas. Il a besoin d'une bouée, quoi. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui apprendre à nager la brasse. Il est en train de se noyer. Là, c'est pareil. Quelqu'un qui est en train de se noyer, allez-y, donnez-lui un programme de méditation. Quand il est dans des problèmes de santé très graves, ça ne va pas forcément démarcher. Vous voyez. Donc, simplement, c'est possible. Ça, il faut utiliser des techniques un peu différentes. Ça, c'est mon expérience. À moi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
De parler plus fort.
Est-ce que le paramétrage de base anglo-saxon facilite quelque chose ou pas par rapport au nombre de modes latins?
Je sais pas.
Si c'est des techniques qui viennent des anglo-saxons, c'est aussi parce que c'est plus approprié à leur mode de fonctionnement.
Alors, d'où viennent ces techniques? Alors, en réalité, c'est les scientifiques, quand ils ont démarré ce travail sur la connaissance du cerveau, ils ont voulu faire des expériences avec des gens qui étaient capables de se concentrer. Et donc, effectivement, quand ils ont demandé à des volontaires pour mettre ces capteurs sur la tête et regarder à l'IRM, ils se sont aperçus que les gens, c'est du typo quand je dis je sais me concentrer. Et ils ont trouvé que quelques personnes, des yogis, des lamas tibétains, des grands ermites. Et à partir de cette rencontre, ils ont été étudier les techniques apprises de ces personnes. Et en fait, ces techniques viennent d'Inde, du Tibet, vous voyez, de traditions authentiques. Alors, toute la difficulté, c'est de se situer, et je pèse mes mots parce que je connais bien la difficulté que ça représente, dans une approche strictement laïque. C'est-à-dire laïque. C'est-à-dire que quelque part, il faut être très clair. On est dans un raisonnement scientifique qui utilise des méthodes très anciennes qui viennent d'ailleurs, mais on reste les pieds bien sur terre. Tout à l'heure, je vous parlais d'une méthode qui vient de Grèce, qui s'appelle la méthode des lieux. Tous les psychologues qui travaillent sur la mémoire connaissent la méthode des lieux. Elle a été dépouillée d'une dimension culturelle, vous voyez, ou philosophique ou religieuse. C'est pas le but des scientifiques. Et donc, en fait, effectivement, les anglo-saxons ou les européens en général, je crois que ce qui est intéressant, c'est cet esprit scientifique qui permet de dire il existe quelque part dans le monde quelqu'un qui sait faire quelque chose, donc on étudie le phénomène et on le met à disposition des autres. Mais effectivement, c'est peut-être des choses que je ne sais pas parler, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, c'est la société judéo-chrétienne, beaucoup basée sur des choses comme la culpabilité ou autre.
Ah, oui.
Et ça, on n'en sort pas. On est là, hein. On est là, et on y passera sa vie. Et c'est pas nous, ce n'est pas nous. Ce paramétrage n'est pas nous. On est ailleurs, hein. On est derrière. Ça répond un peu à votre... Après le reste, c'est pas trop. Oui. Oui, c'est ça. C'est, on va gérer. Le problème, c'est qu'en gérant, on reste là. Donc, on arrivera à des solutions satisfaisantes. Hein. C'est-à-dire, on arrive à recréer un équilibre, mais il ne sera jamais complètement stabilisé. Quoi. tant qu'on n'est pas passé là. Là, c'est différent. On a accès à des ressources. Là, c'est plus de même nature. Oui.
Pour arriver à faire passer le singe de derrière, oui. Prenez le mois ou dernier côté en fait.
Pour les procédés mnémotechniques.
Non, pour arriver à passer le singe.
Pour passer le singe derrière. Alors voilà. Alors la question, vous avez tous entendu la question, c'est-à-dire pour faire ce petit sentier, il faut combien de temps? Alors, je vais vous expliquer, c'est. Oui. Si. Là encore, je vais vous dire des choses très, très personnelles, mais enfin bon, bah, on peut, parce que ça reste entre nous. C'est pas enregistré. Quand on intuitivement, toutes ces techniques, on les sent plus ou moins. Pourquoi? Parce que les uns et les autres, on les a un jour mis en place, même sans en entendre parler. Se calmer, respirer, enfin, c'est des choses qu'on fait naturellement, la plupart d'entre eux. Mais à partir du moment où on rencontre quelqu'un qui les a pratiquées et qui sait comment les pratiquer, on va beaucoup plus vite. Donc tout dépend, en fait, de votre parcours. Il se peut, par exemple, que vous fassiez la rencontre de quelqu'un de tout à fait exceptionnel et il se passe quelque chose de formidable dans le contact. Et vous pouvez avoir une expérience, la personne va pouvoir vous faire ressentir quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne sera qu'une expérience. Et vous ne pourrez pas, à volonté, y retourner. Pour y retourner, il faut trouver un chemin, des étapes. Mais si la personne l'a parcouru avant vous, alors du coup, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'elle sait les difficultés de ces étapes. Et elle comprend les difficultés que vous pouvez ressentir. Si vous êtes tout seul, ça peut être beaucoup plus long. Et vous pouvez beaucoup vous y perdre. Moi, ça m'a fait tellement de bien, parce que j'étais là. Moi, j'essaie de l'apprendre pour plus de personnes possible, gratuitement.
Et à partir des âges. Ouais.
Attends, la dame posait une question tout à l'heure, et puis je suis.
Ouais. Je demandais avec qui on peut faire.
Eh bien, on se voit tout à l'heure. Là, il n'y a pas. Les seuls gens qui. Au niveau de l'entraînement mental, il y a très peu de gens formés à l'heure actuelle. Il y a le Père Gourou, le Bati ou des gens comme ça. Mais à mon avis, on n'est pas tout à fait. On n'en est qu'aux premiers apprentissages. Au niveau de la méditation, des choses comme ça, après, c'est les centres bouddhistes ou autres. Mais alors, du coup, là, on rentre dans une. Donc, moi, j'essaie de me situer tout à fait en dehors de tout ça. Et pour l'instant, en dehors de tout ça, c'est vrai qu'il n'existe pas grand-chose, quoi. Très honnêtement. Il y a une dame, je suis à vous. Ouais.
À partir de quel âge, sur les enfants, peuvent-ils pratiquer ça
Alors, les enfants pratiquent très tôt, à partir du moment où ils voient leurs parents pratiquer. C'est-à-dire que quelque part, si une mère ou un père rentre dans ces pratiques, l'enfant va le calquer, sans s'en rendre compte forcément. Et de lui-même peut poser des questions, et puis progressivement, au fur et à mesure qu'il va grandir, vous pouvez lui dire, bah, toi aussi tu peux essayer, voilà comment faire. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette transmission peut être arrivée très tôt. En fait, tout dépend comment les parents pratiquent eux-mêmes. On a quelques exemples dans la salle de famille dans lesquelles les choses passent. Quoi. À partir du moment où, dans une famille, l'enfant, il calque ses parents, c'est une vraie éponge. À partir du moment où la maman ou le papa va introduire ses pratiques et va réellement avoir un comportement de calme et c'est vrai que quelque part, du coup, l'enfant en profite. Je pense, mais je ne sais pas répondre. Ouais. Qui peut ça? C'est vous? Ouais.
Oui, à part vous donner l'exemple de la craie, mais à part la faute craie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la respiration, c'est quoi?
Alors, c'est tout le programme de la semaine dernière, du mois dernier.
Je n'étais pas là.
Ah.
Il est sous l'ordre. Il est enregistré.
Franchement, faites-le. Au début, ça fait bizarre parce que c'est pas dans nos. On parlait, vous parliez tout à l'heure, effectivement, vous savez, nos tempéraments, notre éducation, c'est pas franchement dans nos mœurs. Faites le test, dites à un de vos amis, je fais de l'entraînement mental. Il va vous dire, ah bon, tu veux voir un psy, t'es pas bien. Oui, c'est vrai que c'est pas vrai ce que je dis. C'est pas dans nos mœurs. Donc à partir du moment où vous mettez à faire ce travail, c'est vrai que quelque part, ça fait un peu bizarre parce que c'est pas habituel. Et moi, j'insiste, c'est des choses qu'on devrait apprendre aux gamins à l'école le plus tôt possible.
La sophrologie ?
Oui. Alors la sophrologie, c'est caïcédo, appuisé aux mêmes sources. On est bien d'accord ? Alors la méthode, ça s'appelle les procédés mnémotechniques. Mnémotechnique. Les procédés mnémo-U-U-E-S, et ça en a plusieurs, les mnémo, M-N-E-M-O. Et techniques, ce sont les techniques de la mémoire. Et en fait, il existe des techniques pour apprendre des noms, des dates, des chiffres, des cours, des listes de mots. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre mémoire. Il existe des techniques pour entretenir la mémoire. Là aussi, c'est quelque chose, c'est pas normal qu'on attende que les personnes soient dans des foyers de personnes âgées pour faire des ateliers mémoire. C'est trop, c'est bien, hein, mais il faut le faire avant. Il faut le faire avant, bien avant. Oui. Pour les procédés mnémotechniques, vous passez une commande à la SPA, on vous fait un stage, pas cher. Ça m'est arrivé d'être payé pour que quelqu'un réussisse un examen. Hein. Et il réussit, bien sûr. Ah oui, Avec les procédés mnémotechniques, c'est très spectaculaire, quoi. Et c'est, on voit tout de suite le résultat. Ça marche bien, ça. Je surveille l'heure, il faut que je cherche le temps. Voilà, alors du coup, ça revient à la question qui a été posée. Est-ce qu'il y a des personnes, comme ça moi je me couille là, qui veulent bien, qui ont tenté de mettre en place les exercices que j'ai proposés la dernière fois et qui sont arrivés à des résultats intéressants? Alors, ça serait bien que certains d'entre vous puissent parler de leur pratique, de la découverte de la méditation, pour en faire profiter les autres. Pour leur montrer que c'est possible, même si on n'est pas tibétain, même si on n'est pas chinois, même si on est français, belge, espagnol. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole?
Et ceux qui sont à ton jeu d'exemple, qui pourront essayer, mais qu'on
parle avec toi. Je ne laisse pas parler. Est-ce que vous avez constaté que vous pensiez?
Ben oui.
Donc vous étiez où? Donc votre pratique était correcte. Oui, c'est ça le problème du conditionnement que nous avons tous. Vous entendez ce qu'elle dit? C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop parler des mauvais exemples. Parce que du coup, c'est... Oui. Mais en fait, c'était un signe que votre pratique est correcte. Je le redis lentement. Elle dit, moi ça m'a gêné parce qu'elle constatait. Elle constatait quoi que vous aviez?
Je comptais un dans ma tête, mais je pensais que je comptais 1, 2, 3, ça me gênait. Oui, ça m'a gêné.
Et oui, le fait de constater que vous pensiez que vous comptez, c'est que vous étiez dans la constatation. Cette constatation est gênante parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais en fait, elle vous empêche d'être dedans. C'est l'objectif.
Tu vois,
Alors, en fait, il y a une variété d'exercices parce qu'il y a une variété de personnes. Tous sont à des niveaux différents et donc ont des besoins différents. On est déjà sur une des étapes du chemin, mais on ne le sait pas, en fait. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on travaille avec quelqu'un, on travaille dans une relation avec cette personne. Parce qu'elle ne voit pas, elle, ce qu'elle elle dit, ouais, c'est pas bon. Et en fait, elle ne sait pas, mais c'est peut-être un bon boulot. Oui, donc c'est pour ça qu'on c'est assez délicat. En fait, pour le faire en deux mots, l'idée c'est d'arriver à concentrer son esprit sur un objet unique. Mais comme en Occident, on a l'esprit qui bouge, il vaut mieux prendre un objet qui bouge. C'est plus facile pour nous, c'est une tricherie. Et donc, au lieu de fixer notre attention sur un objet immobile, je vais inviter les gens à fixer leur attention sur la respiration, parce que la respiration, ça bouge. Donc d'être attentif à la respiration. Mais donc simplement d'être concentré, ça rentre, ça sort. Et si vous le faites, vous allez vous apercevoir que très rapidement, votre esprit va partir ailleurs. Et donc, c'est comparable à une sorte de laisse. Il ne faut pas lâcher le truc. Ce que je vais vous proposer. Et ce que je vais vous proposer, c'est de compter les cycles. L'air rentre et sort, ça fait 1. L'air rentre et sort, ça fait 2. D'accord ? Et si votre esprit continue de partir ailleurs, alors on va monter la difficulté. Je vais vous dire, par exemple, compter un cycle sur 2. Ou visualiser les nombres en couleur. Jusqu'à temps que vous soyez complètement dans votre travail de concentration. Et le problème, c'est que c'est épuisant. Donc il ne faut pas que ce soit très long. Ça, c'est une façon de travailler, en fait. D'accord ? Ça correspond à l'utilisation du lasso. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va voir l'esprit partir, on va utiliser le rappel, le lasso pour revenir, et on continue de s'endormir puisqu'on n'a plus d'énergie. Et donc on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des sessions courtes, régulièrement. Mais il y a une technique qui était enseignée autrefois au Tibet, qui consiste à introduire des sessions beaucoup plus longues. Dans ces cas-là, on compte ces cycles de respiration pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1/2 journée. Mais en acceptant n'importe quelle pensée, PENSER, l'esprit peut tout à fait faire les deux. Et votre esprit peut conduire une voiture et discuter avec votre passager ou écouter la radio. Là, la façon de s'en concentrer n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, on accepte n'importe quelle conceptualisation. C'est de perdre le comptage. D'accord ? Si vous faites ça pendant 1 heure, vous allez vous apercevoir que d'elle-même, vos pensées vont se calmer. Le petit singe va se fatiguer. Et ça, c'est une technique que je donne aux gens qui ont des insomnies. Par exemple, si vous avez une insomnie, il y a des gens qui ont des insomnies. Alors ça, c'est super. D'abord, c'est très efficace. Vous levez, enfin, vous sortez du lit pour pas que l'esprit mélange les deux. Hein. Le cerveau, il mélange tout, sinon. Il faut faire des techniques de concentration. Vous allez être confronté à deux ennemis l'un après l'autre. Le premier ennemi auquel vous serez confronté, c'est la turbulence de votre esprit. C'est ce qui crée l'insomnie en général. Ça part dans tous les sens. D'accord ? Si vous comptez vos cycles en acceptant cette turbulence et en acceptant l'insomnie, immanquablement, à un moment donné, elle va s'épuiser d'elle-même. Mais comme vous êtes dans un exercice de concentration, vous allez maintenir votre comptage. Et donc, immanquablement, vous allez être confronté à votre ennemi numéro 2, qui est la somnolence. À ce moment-là, il faut avoir la sagesse d'interrompre votre session et d'aller vous coucher. Et dans les 5 minutes qui suivent, vous dormez, vous verrez cette procédure. J'ai dévoyé l'exercice de concentration.
Alors, c'est pour ça que je n'ai pas fait souvent, mais j'ai essayé quand même.
Ouais.
20 minutes au maximum, mais plusieurs fois, j'ai
été voilà.
C'est
exactement ça, ce sont les flammes, c'est très dur. C'est comme de faire des gammes pour apprendre à jouer du piano. C'est très dur. Mais il faut passer ce cap, Mais faut s'arrêter, faut savoir s'arrêter. Faut faire comme les gens qui font de la muscu. Travaillez 5 minutes, faites une pause de 2 minutes, retravaillez 5 minutes. Si vous faites comme ça, vous avancerez.
Donc on ne compte plus les moutons.
Non, on ne compte plus les moutons. Non, non. Mais vraiment, c'est très efficace, hein, je peux vous assurer. D'abord, on voit à un moment donné la turbulence qui s'épuise d'elle-même. On se voit sortir de... Mais on est fatigué de cet exercice. Et là, il faut avoir la sagesse de se remettre dans la position de l'anglais. Bon, et des personnes qui ont avancé sur la méditation, il n'y en a pas parmi vous, là, qui ont envie d'en parler, de faire partager leurs expériences? Je sais que vous êtes un peu timide, mais je sais qu'il y en a dans la salle. Hein. Il n'y en a pas qui veulent parler de leur expérience de débutant, ce qu'ils ont rencontré, des difficultés. Est-ce que ça vaut le coup de persévérer ou pas? Oui. Par exemple, j'ai quelqu'un qui a dit oui. Tu veux en dire un mot ou pas? Ouais, allez, vas-y. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est important. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire un mot ou deux rapidement? Oui. Ça, pour les gens qui débutent, c'est bien de faire partager vos expériences.
Moi, je voudrais dire qu'il
n'y
a pas besoin forcément toujours de conseils. Simplement le fait de se concentrer sur sa respiration, penser qu'on respire, ça permet aussi d'avancer.
Voilà, c'est ça, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est bien de connaître plusieurs types de techniques parce que c'est à vous, à un moment donné, d'essayer les techniques.
Selon la journée, selon les moments, selon ce qu'on vit, il faut savoir l'adapter.
Bon, Nathalie, si tu avais un conseil, tu leur conseillerais de pratiquer ce genre de choses?
Pour le bien-être de tous les jours.
Ouais.
Mais c'est pas facile.
Je ne les ai pas payés, hein, mais c'est important que vous voyez. C'est important que vous entendiez ça. Juste un commentaire par rapport à l'histoire de cet exercice en voiture, c'est effectivement une adaptation, il y a plein de versions différentes. Il faut être concentré sur la route, mais ne pas perdre le comptage. Ça évite ce qu'on appelle le sommeil du routier. Vous savez, c'est-à-dire que vous arrivez quelque part en vous disant « tiens, j'ai déjà fait la route ». Ça n'arrivera plus. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes concentré sur la route, mais vous ne perdez pas le fil de votre comptage, cette opération ferme la porte aux pensées parasites. Et donc les gens qui font ça sont beaucoup plus attentifs et voient beaucoup plus de choses que d'autres. Mais on est bien d'accord, ce n'est pas une concentration sur la respiration, c'est une concentration sur la route. Voilà. Mais vous voyez, mais ceci dit, tout à fait raison, quand on pratique ça, c'est passionnant, quoi. On peut utiliser, pour les gens qui ont beaucoup de route, on peut utiliser ça comme un moment privilégié pour travailler sa concentration. Et en plus, ça, c'est beaucoup plus sécurité. Mais là, on revient sur le pro, effectivement.
Et ça nous fait plaisir d'entendre qu'on peut pratiquer en conduisant, par exemple. Parce que c'est un moment où on est assis et disponible, finalement.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'après, quand on a ressenti les bienfaits de ce travail, on se crée des moments. Quoi. Oui.
les choses qu'on aime, ben, on se met en situation de se les approprier. Le tout, c'est de passer la première étape. Oui.
Parce que moi, je fais du yoga.
Oui.
Mais il y a des exercices qui seraient bien que je refasse chez moi, dont des exercices, des moments de respiration. Mais c'est ça, jamais, très rarement, je m'y colle. Quoi.
C'est les deux questions que je posais. Hein. Enfin, c'est la première question, est-ce que ça vous intéresse ce dont on parle? C'est ça la première question. Est-ce que vous y voyez vraiment un enjeu pour vous? S'il y a la première question basique, est-ce que vous voyez un intérêt pour vous? La question numéro 2, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous donner les moyens? Exactement. Je lui ai demandé de parler de ce qui lui plaisait, ce qu'elle aussi sait. Mais c'est vrai que quand on commence, il vaut mieux commencer chez soi, si immobile. Hein. C'est vrai. Encore que, après,
oui.
Les gens sont tellement...
Moi, je sais que comment, il faut vraiment que je sois bien en enfant pour arriver à faire chez moi, si immobile. Hein.
C'est à partir du moment où on fait quelque chose qui nous convient, par exemple un sport, un art, la peinture, la musique, tout ça c'est génial parce que effectivement les gens disent ça va vider la tête, ça va... moi je suis tout à fait d'accord, la seule chose c'est que notre état est conditionné à la possibilité de pratiquer notre art. Ça veut dire que quelque part, dès le départ, on se met dans une sorte de dépendance qui fait que notre bien-être est conditionné à la possibilité de peindre. La lecture. À partir du moment où vous créez quelque chose qui va vous introduire, mais qui est nécessaire en permanence pour vous y introduire, vous devenez dépendant de ce que vous avez créé. Quoi. Là, le but n'est pas là. Le but, c'est de vous mettre en permanence dans cet état de bien-être. Sans dépendre d'une heure de la journée, de l'existence d'un véhicule ou pas, de l'attitude des autres... Là, vous ne dépendez de rien, quoi. Vous voyez, c'est votre cerveau se remet à fonctionner normalement. Et dépend de rien. Ça va, j'ai répondu à ta question ?
C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas confondre, comme tu dis, se mettre en état de bien-être, enfin mettre son esprit en état de bien-être, et un bien-être, je plane, quoi, c'est pas ça. Donc, en état de bien-être dont tu parles, il a toute une acuité.
Oui. Mais, oui. Mais ce dont je voulais parler, c'était plutôt le moyen. C'est-à-dire que le... comment je vais dire ça? On pourrait avoir comme objectif de développer cette acuité, mais si on utilisait un moyen dont on ne pourrait pas se passer après, à ce moment-là, on dépendrait. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est tout. Donc l'idée, c'est de dire à partir du moment où on est dépendant de quelque chose, on ne peut pas on ne peut pas être spontanément dans cet état de bien-être et d'acuité. Donc, en résumé, parce que là, on arrive dès l'heure, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les 5 dernières minutes de façon intelligente. Et donc Dieu sait bien, eux qui ont vu Raymond Souplex et qui s'en souviennent. Absolument. Donc ce qu'il faut se rappeler, parce que c'est quand même des choses bien importantes qu'on a dit, hein, c'est que si ce chemin vous intéresse, ayez simplement en tête les étapes. La première étape, c'est essayer d'être le plus possible dans cette métacognition. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans les neurosciences, on propose aux gens de faire des humains. C'est-à-dire prendre conscience de ce qu'ils font. Prendre conscience de ce qu'ils font au moment où ils le font. Je suis en train de faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Je suis en train d'avoir des pensées qui me gênent. Je suis en train d'avoir des pensées qui me gênent. C'est la distance qui fait qu'on est dedans, du coup. Parce qu'on ne se rendra pas ailleurs, quoi, vous voyez. C'est clair déjà quand je dis ça? Donc cette première étape, c'est plus vous ferez ce travail de métacognition, d'observation et de gestion de vous-même, plus vous allez vous extraire des tourbillons de pensée qui nous entraînent dans des choses parfois très dures, hein, certaines heures du jour ou de la nuit. Hein. Plus on est dans cette prise de distance, ça s'appelle aussi la conscientisation, moins on en subit les charges. Si vous le faites régulièrement, obligatoirement, c'est un des résultats. Si vous arrivez, vous avez eu quelques témoignages, et encore une fois, ils sont tous très intéressants, mais tout le monde est différent. Donc si vous arrivez à trouver une technique qui vous permet de vous concentrer, de rester concentré sur un objet, on est d'accord, c'est une béquille, hein, c'est pas ça, mindfulness, hein, pour les scientifiques, le haut du triangle, hein, c'est pas ça. Hein. Si, c'est une béquille pour y arriver. Si vous arrivez à vous concentrer sur un objet longtemps, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de pensées subtiles pour vous réguler. Votre concentration sera naturelle. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous serez projeté dans l'autre partie du triangle. Et là, on est face à l'esprit dans son état naturel tel que de lui-même il se présente. Il peut y avoir des pensées qui passent ou pas, ça ne change plus rien. On est dans une totale sérénité, dans un calme total. Ça ne veut pas dire qu'on est passif vis-à-vis de la vie. Ça veut dire qu'on est capable de prendre les bonnes décisions, de faire les choix, les bons choix. On a tout à portée de main en ce moment. Si vous arrivez à cet état-là, il faut continuer l'entraînement jusqu'à temps que cette posture de votre esprit déborde votre pratique et envahisse votre quotidien. Et du coup, on est serein et présent dans son quotidien. Ça vous va comme programme? Oui.
On entend parfois l'organisation de méditation. Quel est l'intérêt de la méditation?
L'expérience que j'ai, moi, c'est que il y a plusieurs intérêts. Premier intérêt, merci encore aux personnes qui ont bien voulu s'exprimer, parce que le fait d'entendre les autres renvoie une image de ses propres difficultés. Et ça permet parfois, pour ça, je ne dis pas systématiquement, mais pour certains, ça va permettre de progresser. Ça, c'est une première remarque. Je sais que moi, j'ai tendance plutôt à faire ça, autour de la pratique des difficultés des personnes. On va le faire ce soir, c'est pour ça que j'ai plutôt refusé ce genre de questions. Mais dans le cadre d'un groupe de pratique, c'est tout à fait opportun de le faire. Parce qu'on voit dans les autres des difficultés qu'on ressent. Et du coup, ça fait avancer tout le monde. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que plus il y a de personnes qui avancent, plus ça draine le groupe. C'est bizarre, je ne sais pas l'expliquer. Et c'est plus... Les gens me le disent régulièrement. Ils me disent, mais quand je suis là, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est porteur. Et du coup, ils repartent travailler chez eux, tout seul, c'est plus facile. Voilà. Il ne faut pas que je dépasse. Juste une toute dernière chose. S'il y avait des défauts ou des obstacles dans la façon dont vous travaillez, alors rendez-vous dans un mois, parce que ce sera le sujet du prochain cours.
Merci.
Exactement. Donc, on se retrouve le 19... Non.
28. 28.
Merci. Le 28 novembre et le 8 décembre.